Nickel, magnifique. On y va?
Où?
Je sais pas, on fait l'info.
On va boire un café?
Ouais, c'est bien.
Ah, ouais, super. Ici et maintenant, respirez, sentir ma respiration. Ici et maintenant, sentir cette vie que le Créateur a soufflée en moi. Ici et maintenant, me remémorer le merveilleux de mon Créateur. Tu t'appelles comment ?
Lucas.
Qu'est-ce que tu as eu de merveilleux cette semaine ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? T'as été à l'école ?
Non.
T'as mangé à la maison ?
Non, pas encore.
T'as pas encore mangé ? Aujourd'hui ? Est-ce que tu as un beau goûter cette semaine ?
Je sais pas.
D'accord. Tu t'appelles comment ?
Non, c'est pas.
Tu t'appelles comment ?
Naïla.
Naïla ? Qu'est-ce que tu as eu de merveilleux cette semaine ?
On est allé à la patinoire.
C'était cool ça, c'est génial. Puis tu as fait des tas de rondes avec les patins ?
Oui.
Trop bien. Salut, tu t'appelles comment ?
Robin.
Salut Robin. Qu'est-ce que tu as eu de merveilleux cette semaine ?
Après, je vais voir mon copain que j'ai pas vu depuis longtemps.
C'est cool ça, des merveilleuses amitiés. Nous remémorer notre Dieu merveilleux.
Bonjour et bienvenue. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse louer le Seigneur ce matin. Les chants qui vont suivre, on va les enchaîner, mais c'est tous des chants qui parlent justement du Dieu merveilleux qu'il est. Alors, ouais, sentez-vous libre, mais moi je vous invite vraiment à vous lever et à pouvoir le proclamer qu'il est. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Si tendre, si patient, tu corriges et conduis. Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Il est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté. Que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon père et mon sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux. tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Seigneur, pour qui tu es, merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es toujours avec moi, à chaque moment. Et malgré mes difficultés, mes moments pas faciles, je veux toujours le proclamer que tu es un grand Dieu, un grand qui est magnifique, qui est toujours présent. Je vous invite à un moment de silence ou de moment où vous pouvez peut-être proclamer aussi qui il est dans votre vie. Quand je vois ces enfants ce matin, ça me réjouit vraiment le cœur. Ça me vient maintenant, mais j'essaie de m'imaginer notre papa qui doit se réjouir de voir ses petits-enfants ici présents. Moi, en tant que papa, c'est sûr que quand je vois mon petit bout de chou tous les jours, malgré qu'il me fait des catastrophes, je suis heureux. Et en revenant à ces chants, en voyant qui il est, je m'embrouille un petit peu parce que j'ai un petit peu de l'émotion là maintenant, mais j'ai simplement envie, malgré mes difficultés, simplement le proclamer, de dire vraiment son merveilleux nom, quoi. Et je veux toujours me rattacher à lui, malgré mes difficultés. Je vous invite à chanter ce prochain chant qui dit « Couronné, rayonnant de majesté, et que tout l'univers proclame ta grandeur. » Qu'on puisse justement encore ce matin le proclamer de qui il est. Ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Et il est venu comme un petit enfant. On va s'en rappeler dans quelques jours. Mais il est venu comme un petit enfant dans une étable. Et pour le voir un jour, sur une croix, parce qu'il a voulu payer le prix pour nous. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, et digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Nous allons prier. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de nous rassembler ce matin, pour la liberté de te louer. Nous te demandons de bénir ce moment de culte et ce moment que nous passons ensemble. Rends-nous disponibles à écouter ce que tu as préparé pour nous. Et nous voulons tout spécialement te prier pour Philippe et les moniteurs qui se sont préparés à apporter un message, que nous puissions être ouvert au merveilleux de ton nom. Bénis les enfants, ouvre leur cœur à ta parole et que chacun puisse passer un magnifique moment. En ton nom, amen. Alors, vous allez pouvoir descendre dans vos groupes et je vous souhaite de passer un très bon moment. Je vais lire le texte dans Luc 1, 26 à 38. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta.
Bonjour à chacun, chacune. Deuxième dimanche de l'Avent. Deuxième dimanche où nous attendons encore ce qui doit advenir. Et pour nous préparer dans cette attente, la belle lecture qui a été faite ce matin et ce verset que nous trouvons au verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Cette parole de l'ange Gabriel à Marie trouve un écho particulier en nos cœurs autour des fêtes de Noël. Il suffit d'écouter les belles histoires que l'on raconte à Noël. Ces belles histoires où l'impossible devient réalité, où la lumière irradie et réchauffe les situations les plus désertées par la joie. Noël est en nos cœurs la fête de tous les possibles, car rien n'est impossible à Dieu. Et parfois, c'est l'histoire elle-même qui nous en rend le témoignage. Et quand l'histoire elle-même nous rend le témoignage que rien n'est impossible à Dieu, alors nous sommes d'autant plus saisis. Vous vous souvenez peut-être, par exemple, de l'histoire vraie dont le film « Joyeux Noël » a été tiré. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande vivement. L'histoire d'une fraternisation vraie entre soldats français, allemands, écossais, un soir de Noël 1914, en pleine guerre des tranchées. Une merveille de lumière au cœur de combats impitoyables et dérisoires. Un îlot d'humanité dans un océan de mort, d'angoisse, de désolation. Et tout cela à partir de quoi ? Quelques chants de Noël, timides d'abord, au fond d'une tranchée, qui finissent par trouver un écho de l'autre côté de la tranchée, pour devenir finalement un embrasement de fraternisation, une trêve que l'on voudrait sans fin. En nos cœurs, Noël, c'est la fête de tous les possibles, de tous les renversements. Nous rêvons tous, toutes, d'un monde où le meilleur transfigure les hostilités en une fraternité qui fait vivre. Nous rêvons tous d'une trêve sur le champ de bataille de notre monde. Nous rêvons tous d'une trêve sur le champ de bataille de notre vie aussi. Et à Noël, je trouve que tout cela s'éveille, que tout cela s'exprime. On peut y voir la trace d'un besoin d'harmonie planté par Dieu au cœur de l'homme, mais souvent étouffé par nos égoïsmes, par notre besoin de nous affirmer face aux autres. Nous ne sommes pas faits pour toutes les disharmonies que crée en nous le mal. Quelque chose en nous résiste, aspire, attend une harmonie meilleure, une trêve. Et l'on vibre alors à ce qui nous ouvre ces impossibles possibles. Comment est-ce que nous pouvons recevoir dans ce temps de l'Avent cette parole? Rien n'est impossible à Dieu. Pour que cette parole soit autre chose qu'une belle pensée, simplement liée à l'ambiance un peu sucrée, un peu feutrée de Noël, où nous retrouvons notre âme d'enfant. Eh bien, il me semble qu'il nous faut d'abord essayer de cerner le contexte de cette parole. Cette parole, elle est dite à Marie. Et elle se situe, comme nous l'avons lu, au carrefour de deux expériences. L'expérience de Marie et l'expérience d'Élisabeth, sa parente. Deux expériences, donc, qui sont ancrées dans le terroir de la vie réelle. Ce « rien n'est impossible à Dieu » vient rejoindre Marie et sa parente Élisabeth dans le terroir de la vie réelle. C'est pas de la théorie, c'est de la réalité pratique. L'expérience d'Élisabeth, l'expérience de Zacharie, son mari, c'est celle d'un désir et d'une prière restée sans suite pendant de nombreuses années. Ils ont passé toute leur vie de couple sans pouvoir réaliser leur désir d'enfant. Une vie faite d'attentes déçues, d'espérances à ravaler chaque fois et qui remonte irrésistiblement, même si cela fait mal à chaque fois, comme l'espérance est violente, soupirera Apollinaire. Comme l'espérance est violente. Et maintenant, voilà Élisabeth et Zacharie âgés et probablement résignés. Mais ils ne s'obstinent pas. Leur combat est ailleurs. Ils appliquent leur cœur à rester fidèles au Seigneur, à le servir, à l'aimer, à découvrir en lui les ressources de sérénité et d'ouverture aux autres. Luc 1, verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur, comme il l'aime, le Seigneur. Quant à Marie, elle n'est alors qu'une jeune femme dans un village ordinaire, promise à un homme qu'elle aime certainement. Tous deux sont occupés à leur labeur, à leur Dieu, à leur amour. L'annonce de l'événement nullement impossible à Dieu viendra pour eux non pas réaliser un conte de fées, mais bien plutôt bousculer le conte de fées dont ils rêvaient. Et nous, à des siècles de distance, lorsque nous entendons encore la promesse que rien n'est impossible à Dieu, nous imaginons un peu facilement, me semble-t-il, que tout devient simple, que tout devient lumineux, que tout devient aérien, facile dans nos vies. Si Dieu peut tout, ben il fera tout. Tout avancera facilement. Tout se dénouera sans souci, sans que nous n'ayons plus ni effort, ni peine, ni question. Ah, si rien n'est impossible à Dieu, ça va rouler pour moi. Ah, les récits de la nativité sont pleins d'une vraie lumière, sont pleins d'une profonde sérénité. Mais permettez-moi de nous dire ce matin qu'ils ne font pas jamais dans ce merveilleux-là. Dieu n'est pas un coup de baguette magique. Il nous renvoie plutôt ces récits au cœur de la vie, la vraie vie, avec toute son épaisseur, toutes ses limites, toutes ses aspérités, tous ses changements, toutes ses lenteurs, la vraie vie, comme nous la vivons vraiment. Qu'est-ce qui est donc en vue lorsque l'ange souligne que rien n'est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est en vue quand l'ange souligne que rien n'est impossible à Dieu? Le premier élément qui me semble incontestable, c'est qu'une irruption se réalise. Mais ce qui fait irruption, c'est pas le merveilleux, c'est pas le magique. Ce qui fait irruption dans la vie de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie, de Joseph, c'est le plan de Dieu. C'est ça qui fait irruption. C'est son projet pour eux, c'est son projet pour son peuple, c'est son projet pour l'humanité. Et Marie et Joseph, comme Élisabeth et Zacharie, sont tout d'un coup rejoints et bousculés par ça, l'irruption du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils aient été à aucun moment à l'écart de ce plan de Dieu, mais ils arrivent au moment de l'accomplissement des temps. Galates 4, verset 4. Quand les temps furent accomplis, ils sont là, à ce croisement. Les temps sont accomplis. Tout est prêt, tout est préparé de plusieurs côtés. La promesse a été faite, elle a été portée dans tout l'Ancien Testament. Et puis là, avec les récits de la Nativité, nous y sommes. Et tout va s'accélérer maintenant. Il y a eu entre les promesses faites par les prophètes et le temps de leur accomplissement, il y a eu des siècles d'attente, des siècles d'espérance, des siècles de veille. Il a fallu tenir bon dans l'attente, avec de la fidélité, avec de la loyauté, avec un vrai attachement dans les promesses de Dieu. Tout ne se déployait pas sous leurs yeux. Et Élisabeth et Zacharie en particulier récapitulent dans leur histoire personnelle l'histoire de leur peuple. Ils attendent encore. Et jusque-là, ce qu'ils attendent ne s'est pas réalisé. Mais maintenant, maintenant que Dieu a dit « c'est maintenant », ils deviennent partie prenante de la nouveauté que Dieu accomplit. Leur épreuve devient un moyen par lequel Dieu montre qu'il fait du neuf et qu'il tient sa promesse. Leur incapacité à changer eux-mêmes le cours des choses devient le terrain sur lequel Dieu va s'authentifier et montrer que c'est bien lui qui agit, que tout ce qui se passe vient de lui. Et pour Marie, Marie appelée à vivre une expérience unique, une expérience singulière, pour Marie, Élisabeth et Zacharie deviennent une confirmation, un soutien. La visite de l'ange n'est pas pour Marie, comme elle peut le craindre, comme on lui le dit peut-être, la visite de l'ange n'est pas le produit de son imagination. Élisabeth et Zacharie confirment tant la parole de l'ange que l'action de Dieu qui est en cours. Avec eux, Marie pourra partager ce qu'ils vivent. Avec eux, Marie pourra méditer sur le sens des choses. Avec eux, Marie pourra se fortifier dans la certitude que Dieu est bien à l'œuvre. Les uns et les autres vivent l'action puissante de Dieu. Et ils ont pourtant besoin de se fortifier ensemble. La toute-puissance de Dieu qu'ils expérimentent ne supprime pas ce besoin de soutien, de communion, de mise en commun, de partage. La promesse de Dieu, ses accomplissements ne les ont pas rendus invulnérables, intouchables. Ils ne sont pas en train de marcher désormais sur un tapis roulant où tout avance merveilleusement bien. Marie et Élisabeth restent pleinement femmes, confrontées à des choses qui les dépassent, les deux pieds sur terre et ensemble. Et je crois là qu'il y a un secret pour notre vie de chrétien, de chrétienne. C'est de vivre ensemble. Les grandes choses de la vie comme les petites. Les victoires, les lumières comme les défaites et les heures sombres. Être ensemble, partager, confronter, vérifier, encourager, prier, ensemble. Ni l'une ni l'autre ne vivent leur expérience seule. elles se tiennent ensemble. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être ensemble. Ce qui est glorieux dans ce texte, c'est de voir que rien, absolument rien, n'arrête le plan de Dieu. Rien n'arrête l'accomplissement de ses promesses. Son dessein s'accomplit envers et contre les impossibilités humaines. La victoire sur la stérilité de Zacharie et Élisabeth, ça reste encore dans le cadre des lois de la procréation humaine. Mais la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie, ça c'est encore d'un autre ordre. Que c'est bon de voir le Seigneur, comme il le décide, dérouler son action sans être arrêté par quoi que ce soit. Même la réponse humaine ici n'est pas le facteur décisif. Dieu agit malgré la difficulté de croire dans Zacharie. Dieu agit avec l'adhésion de foi de Marie. Lorsque Dieu décide dans son plan de faire du neuf, mes amis, rien ne peut l'arrêter. Aucun obstacle n'est trop fort. Il a toujours les moyens de réaliser ce qu'il veut accomplir. Il n'est pas dépassé. Et la naissance de Jésus le rappelle avec force. Son humanité est créée par l'Esprit Saint à l'état embryonnaire dans le sein de Marie. On y voit là une action créatrice absolument unique qui atteste que Jésus est unique et signale qu'il est lui une nouvelle création. Et puis il y a un autre message fort de ce miracle. C'est que le Dieu de l'espérance a tous les moyens de son action lorsqu'il décide de la mettre en œuvre. Lorsque Dieu déploie sa grâce, nous pouvons tout attendre de lui, y compris ce qui reste a priori pour nous impossible. Rien n'est impossible à Dieu. À nous, c'est impossible. À lui, ça ne l'est pas. Et cela, il me semble que c'est absolument royal. C'est une des forces du récit de Noël que de nous le rappeler. Pensons à cet édit de l'empereur Auguste qui oblige Joseph et Marie à prendre la route au pire moment, dans les moins bonnes conditions. Dans tout l'Empire, des milliers de personnes doivent se déplacer pour la seule et unique raison que l'empereur l'a voulu. Mais cette affirmation forte du pouvoir de l'empereur sera obligée de servir le plan de Dieu, de se courber devant le plan de Dieu. Par elle, Jésus naîtra à Bethléem, selon les anciennes promesses faites par exemple par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite ville entre les centaines de Juda, c'est là que naît le Sauveur. Ce qui n'empêche que Marie et Joseph ont vécu tout sauf un conte de fées pendant ce dur voyage. Mais au bout du compte, quand le voyage touche à son but, c'est l'admiration et c'est l'adoration devant la maîtrise du Seigneur. Il nous arrive à nous aussi d'être sur des chemins exigeants, pentus, caillouteux, avec des flaques, avec toutes les difficultés. Et parfois, il nous faut parcourir tout le chemin pour arriver au but que Dieu a fixé, pour remarquer avec étonnement et adoration combien notre Dieu est grand. Nous sommes, nous aussi, inclus dans les projets de Dieu. Ces projets nous rejoignent, nous bousculent, nous entraînent. Ils nous font emprunter des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Mais nous les savons porter par cette belle certitude. Rien n'est impossible à Dieu. Nous ne disposons pas, nous, de la formule. C'est à Dieu et à Dieu seul qu'elle appartient. Vivre avec Dieu sous son regard, en sachant que rien ne lui est impossible, ne fait pas de nous des personnes qui pourrions, à leur guise, jongler avec le possible et l'impossible, obtenir ce qu'ils pensent avoir besoin au moindre mouvement de leur cœur. Dieu reste souverain. C'est lui le maître des circonstances. Il nous appartient à nous d'entrer dans ses plans et pas l'inverse. Comme le dit la fin du Notre Père, c'est bien à Dieu qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Remarquez que la puissance, elle est mentionnée après le règne, la direction des choses. La mise en action par le Seigneur est selon ce qu'il décide dans sa souveraineté. Il règne. Et ensemble, le règne et la puissance sont au service de la gloire de Dieu, celle qui éclate dans l'aboutissement des choses. Pour finir, justement, sur quoi est-ce que tout cela débouche-t-il ? Eh bien, il nous faut écouter Marie au verset 38. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Voilà un texte que j'aime méditer et que je résume pour moi par deux verbes en guise de conclusion. Le premier, c'est le verbe « s'ouvrir ». Nous ne sommes pas maîtres du monde. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes même pas maîtres de notre vie avec Dieu. Nous ne sommes pas maîtres des chemins par lesquels Dieu authentifie son action. Nous en sommes témoins. Nous pouvons en être acteurs, actrices, si nous nous ouvrons à la grâce de Dieu. Il nous appartient de laisser l'œuvre de Dieu s'incarner, s'accomplir en nous comme lui le désire. C'est Dieu qui accomplit ses plans. Il nous y intègre, il nous soutient, il nous forme pour achever son œuvre en nous. Nous avons donc, comme Marie, à cultiver, me semble-t-il, la disposition spirituelle profonde de la disponibilité devant Dieu. Notre place, c'est d'accepter sereinement d'être serviteur, d'être servante de cette œuvre de Dieu en nous. Il s'agira pour nous de permettre à sa parole de prendre chair en notre vie. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit Marie. Il s'agira de renouveler cette prière. Il s'agira de la murmurer de toute notre foi, même fragile, de tout notre désir. Que toi, l'architecte, tu puisses construire en moi et par moi, si tu le veux, ce que ta bienveillance a dessiné. Et le deuxième verbe qui me semble résumer cette attente, c'est le verbe s'en remettre. S'en remettre. Cela voudra dire souvent remettre au Seigneur la question des temps et des moyens. Vous avez vu la question que Marie pose ? Mais comment cela se fera-t-il ? C'est souvent là que se situe une autre angoisse dans notre marche avec Dieu. Comment est-ce que tu vas faire ? Comment ça va se goupiller ? Comment est-ce que ça peut s'arranger ? Comment est-ce que les bidons peuvent revenir ensemble ? Comment ça va se faire ? Parce que nous voulons tout savoir. Parce que nous voulons tout maîtriser. Parce que nous voulons tout voir se résoudre. Parce que nous voulons tout voir entrer dans notre cadre. L'assurance donnée à Marie, ce n'est pas celle de ses moyens à elle, mais c'est celle des ressources et de la puissance du Saint-Esprit. Il fera son œuvre. Marie y fera tout ce qu'il faut. Verset 35. Marie ne sait pas encore ce que cela va impliquer. Marie ne sait pas encore sur quel chemin elle va devoir s'orienter. Marie ne sait pas encore qu'une épée vraiment lui transpercera le cœur parce qu'elle verra son propre fils mourir devant ses yeux sur une croix. Mais l'assurance lui est donnée que Dieu est là et que rien ne lui est impossible. C'est avec ça que Marie prend la route. C'est avec ça qu'elle acquiesce au plan de Dieu. C'est ce qu'elle vivra, même quand sa vie sera tissée d'ombre et de lumière, d'amertume et de douceur. L'ombre la plus terrible sera bien sûr celle de la croix, lorsqu'elle verra celui qu'elle a porté, bercé, soigné, mourir comme le pire des coupables. L'heure terrible où celui qui s'est fait serviteur endosse pour nous le jugement que méritent nos fautes. Mais même ces heures terribles, même ces heures-là, les plus noires de l'histoire de l'humanité, même ces heures-là manifesteront elles aussi que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'au troisième jour, c'est la résurrection, c'est le triomphe du Christ, c'est le salut assuré pour quiconque croit en lui. Après la nuit opaque, la lumière d'un matin d'éternité, la lumière de la résurrection. Je conclus. Cette lumière-là, elle est désormais le repère de tous ceux, de toutes celles qui, comme Marie, font le choix de la confiance et de la disponibilité. S'ouvrir, se remettre. Cette lumière, c'est l'étoile du matin qui éclaire notre horizon parce que nous savons en qui nous croyons, parce que nous savons vers quoi nous allons. Cette lumière, nous devons le dire, ne dissipe pas toutes les obscurités, mais elle brille, elle oriente notre marche, elle éclaire notre cœur. Et cette lumière annonce les rendez-vous du plan de Dieu et la certitude de leur accomplissement. Car rien, non rien, n'est impossible à Dieu.
Après ce qu'il a partagé, qu'on puisse juste prendre un chant avant la scène. Un chant qui est assez récent. Mais je vous invite, je pense que ceux qui le connaissent, bah, c'est de le chanter, mais autrement à le méditer. Alors je vous invite simplement à soit l'écouter ou venir avec nous pour ce chant. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Ma peur et ma honte ont été lavées sur la croix. Ton amour me remplit de joie et me laisse en voix, sans voix. ton amour, toi seul m'a libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce. Mon âme est bouleversée. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse en voix, sans
Nous allons vivre le moment de la Sainte Cène et je vais lire dans Luc 22 à partir du verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versée pour vous.
Le goût, la texture de ces éléments, tout le lien entre ici et maintenant. Et c'est ailleurs, il y a 2000 ans. Ailleurs, qui amène la crucifixion, puis la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, unique Fils de Dieu. Ici et maintenant, qui nous offre la restauration de cette relation avec le Père gratuitement. Puisque le sang innocent a coulé et que la justice de Père est assouvie, nous avons pu retrouver, par l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie, cette relation que le péché a détruite. Et nous exprimons cette merveilleuse réalité en prenant les éléments. Au centre des plateaux, vous trouverez du jus de raisin. Et pour ceux qui préfèrent la coupe, merci de nous faire signe. Dans notre semaine, nous avons choisi de mettre de côté quelque chose pour Dieu, pour le bon fonctionnement de la paroisse. Je vous propose de le faire maintenant. Nous allons passer aux annonces à la vie de l'Église dans les jours, les semaines qui viennent.
Alors, la librairie L'Eau Vive vient à vous, au lieu de vous déplacer. Donc, vous avez encore l'occasion ce dimanche d'acheter des livres dans le foyer. Ensuite, Centre Noël Chrétien, à Place du Mollard, pour toute information, si vous voulez vous inscrire et puis participer, allez vers Jacques Rosset, qui est... Deux mots. Oh, pas 30 secondes, deux mots.
La semaine dernière, on a tous entendu, je le prends surtout pour moi, transmettre et encourager, relation authentique, communication sincère. Hier, aujourd'hui et demain, Dieu nous comble de ses bienfaits. Je vous invite tous, mais je force personne, rien n'est impossible à Dieu. Le stand donc a eu lieu jeudi, ce jeudi dernier. Il a encore lieu donc ce jeudi, samedi et jeudi. Ceux qui s'intéressent peuvent passer vers moi, il y a aussi des petits flyers à la sortie, donc pour savoir un petit peu les heures que vous pouvez passer. Ce que j'aimerais juste dire, c'est que jeudi passé, juste un tout petit témoignage, il y a deux filles qui sont arrivées, deux ados, qui sont à l'école d'art, qui ont passé et qui ont vu boissons gratuites. Elles sont venues, elles ont demandé si c'était vraiment gratuit, et puis on leur a dit oui, il y a absolument, tout est gratuit. Et puis on a pu avoir une bonne discussion, parler de ce qu'elles faisaient, où elles en étaient, enfin, etc. Et dans la discussion, on a pu dire que tout est gratuit, le salut est gratuit. Et on a pu leur donner des calendriers. Alors je vous encourage de venir juste déjà nous dire bonjour. Merci.
Samedi 15 décembre, venez chanter Noël à 17h ici à l'église. Des chants de Noël, il y aura aussi des contes de Noël. Et bien sûr, une petite collation avec des boissons chaudes. Donc soyez bienvenus. Samedi prochain à 17h. Ensuite, dimanche 23, le culte de Noël. Alors peut-être que Philippe, tu as deux, trois petits éléments pour... Non ?
Nous allons vivre un culte de Noël en famille, donc avec les enfants, avec un programme très diversifié, festif. L'idée, c'est de finir pas trop tard, puisque nous serons le 23 décembre, et pour plusieurs d'entre nous, il y a peut-être une rencontre de famille qui suit. Donc, on aura un culte, on veut marquer le coup pour le 23, en ne finissant pas trop tard, et avec quelques belles surprises en préparation. Je crois même que je viens d'avoir la confirmation du témoignage exclusif de l'aubergiste qui a eu l'occasion d'accueillir Joseph et Marie et qui, en exclusivité mondiale, probablement quand même en langue française, nous racontera un petit peu ce qui s'est passé.
Lundi 24 décembre, célébration œcuménique de Noël. Denise, deux, trois mots.
Non, nous qui sommes là ce matin, nous sommes une petite goutte d'eau dans l'océan des chrétiens du monde entier. Et la célébration œcuménique du 24 décembre, c'est une occasion d'augmenter ce nombre, de se rallier les uns aux autres, tous différents. Les célébrations sont un peu plus formelles que ce dont on a l'habitude. Parfois, ça fait du bien aussi. Et puis, elles me tiennent très à cœur, justement, parce que c'est un partage de notre foi commune entre protestants, catholiques et évangéliques. Et je pense que c'est une occasion unique et une force que nous avons là à Mérin de témoigner que, dans nos différences, nous sommes ensemble dans la foi au Christ qui nous a aimés, qui est mort et qui est ressuscité. Et de vivre ensemble l'irruption du plan de Dieu dans nos vies personnelles, dans la vie de la commune, dans la vie de l'humanité. Il y a un moment fort dans ces célébrations, c'est le partage des vœux de Noël dans toutes les langues. Alors si parmi vous, il y a des personnes qui parlent une autre langue que le français, l'occasion vous est donnée de dire simplement « Joyeux Noël » ou d'ajouter un petit mot comme vous le sentez. vous pouvez vous adresser à moi pour vous annoncer ou à Philippe Sewell. Il y aura aussi des Philippe Sewell. Bon, il y a trop de Philippe parce qu'il y a Philippe, il y a Philippe Anchaud, c'est d'ailleurs lui qui donnera le message le 24, et il y a encore Philippe Gola, hein, donc il ne faut pas tout mélanger. Bon. Donc si vous avez envie si vous avez à cœur de transmettre dans votre langue, c'est une façon de montrer combien on est nombreux et différents et multiples et tous accueillis. Voilà. Alors, si vous avez une autre langue, vous êtes les bienvenus. Je vous prie, parce que c'est riche d'entendre s'il veut dans toutes les Noëls. C'est une prière que je vous fais.
Le camp de ski du CTT, vous avez à l'extérieur des petits feuillets pour participer aux denrées pour leur camp de ski. Donc c'est jusqu'au 23 décembre et le panneau est juste dans le foyer. Ensuite, Nouvel An, il y a une organisation d'un Nouvel An ici à l'église. Pour toute information, vous pouvez demander à Paul Robert. Et puis je crois que comme il y a les gentils organisateurs, c'est les Battisti, les Paulet, les Rosset et les Chansons. Voilà, donc pour toute information, est-ce qu'il y a déjà un panneau d'inscription ? Merci beaucoup.
Je propose de nous lever pour la bénédiction. Que ce nom merveilleux, sa puissance, sa bonté, sa bienveillance soit vécue et reconnue dans votre semaine, que la paix de notre Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit ressentie dans votre vie. Allez en paix.